Voilà, premièrement, recevez les salutations de l'église Emmanuel et Terbeek. C'est une joie pour moi d'être parmi vous. Est-ce qu'on m'entend bien dans le micro? Oui, je pense que oui. Oui, super. Alors, donc voilà, évidemment, je parlais de ça avec Stacha en remontant ici rapidement. Le trajet pour aller à l'église est devenu beaucoup plus conséquent maintenant. C'est assez étonnant. Mais bon, les habitudes sont les mêmes. Je sais qu'on a prié, mais je vais peut-être reprier encore une fois pour demander l'aide à Dieu pour cette prédication. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, je veux venir devant toi, te remercier premièrement pour ta parole, te remercier pour les richesses qu'on peut y trouver, te remercier pour ce temps aussi, cette période de Noël où on peut se rappeler de ce que tu as fait pour nous. Donne-nous de ne pas nous rappeler de cela juste maintenant, mais que nous puissions le faire à chaque instant de notre vie chrétienne. Merci parce que, oui Seigneur, tu as tout accompli pour nous et je veux te prier maintenant pour que tu rendes nos cœurs attentifs à ta parole, que par ton esprit tu puisses travailler les cœurs et donner à chacun ce qu'il a besoin, Seigneur, ce matin. Viens-moi en aide aussi dans ce que je vais dire, afin que ce soit fidèle et que cela puisse te glorifier, Seigneur. Amen. Que diriez-vous ce matin ? Si je vous disais qu'on avait trouvé une énergie inépuisable permettant d'alimenter tous nos véhicules, aussi bien diesel que essence. Fantastique. On voit ça, gros titre dans les journaux. Une énergie qui n'a pas de fond, pas l'essence comme on voit, qui peut être limitée, les énergies fossiles, non. Une énergie inépuisable. Et en plus, cette énergie est propre, écologique. Plus de rejet de CO2. Plus rien. Ce serait le rêve, n'est-ce pas ? Si on verrait une telle annonce ce matin. Ou encore, que diriez-vous ce matin si on avait trouvé le problème, la solution au problème de la haine dans le monde ? On a trouvé l'équation permettant de faire en sorte que tous les êtres humains soient bien ensemble, vivent bien. Plus de haine, plus de racisme, plus de drame. Ou encore, qu'on avait élaboré un vaccin permettant d'éradiquer toute forme de maladie, plus rien, plus de maladies, tout ce qu'on peut imaginer. Et cela, en fait, est disponible à l'hôpital le plus proche, gratuitement. Vous n'avez qu'à y aller et vous serez libéré de toute maladie, tout mot, tout problème. Alors peut-être ce matin, votre réponse, votre réaction, ce serait « Ouais, je suis sceptique, j'attends de voir, je ne suis pas convaincu, ça me semble peut-être gros, peut-être un peu impossible ». Ou alors, vous seriez dans la joie peut-être de vous dire qu'on a enfin trouvé une solution au pire problème de ce monde. Une joie de se dire que tous ces problèmes sont derrière nous maintenant. Et peut-être que vous seriez dans l'entrain en vous disant, mais qu'attendons-nous pour saisir ce moyen, saisir cela. Et le texte du jour, qu'on va lire dans un instant, nous présente un cas un peu similaire sur certains points. On parle d'une situation tout simplement sans espoir, vécu par le peuple d'Israël, plus précisément les résidents de Juda. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Ésaïe, au chapitre 8. Ésaïe 8, à partir du verset 17. Verset 17. Je compte sur l'Éternel, même s'il se cache à la famille de Jacob. Je me confie en lui. Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signes et de présages en Israël, de la part de l'Éternel, le maître de l'univers, qui réside sur le mont Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent. Un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux ? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants ? Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Il parcourra le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera et maudira son roi et son dieu. Il tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et il n'y verra que détresse obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Verset 23. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, les régions situées de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays, de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi, comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Verset 4. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille, tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Jusqu'ici, la lecture ce matin. Donc le peuple de Juda, ici à l'époque d'Ésaïe, passe par une situation vraiment difficile, une épreuve douloureuse. On trouve un peuple dévasté, un peuple anéanti par l'une des plus grandes superpuissances de l'époque, par l'Assyrie notamment. On va y revenir dans un instant. Alors, on pourrait se dire au premier abord, dans les premiers versets que j'ai lus au chapitre 8, mais comment sont-ils arrivés là? Que s'est-il passé? On pourrait se dire, mais il s'agit du peuple de Dieu ici, n'est-ce pas? Peuple du grand Dieu de l'univers, du Dieu Tout-Puissant. Que s'est-il passé pour que le verset 17 nous dit que Dieu se cache à la famille de Jacob, Dieu se cache à ceux qu'il a aimés. Que s'est-il passé? En effet, on y voit un peuple censé être dans l'abondance, dans un pays où coule le lait et le miel, on se rappelle de ça, la sortie d'Égypte. Dieu a conduit son peuple et qui se retrouve ici en proie aux ennemis les plus redoutables. On le voit au verset 21. Dieu aurait-il abandonné son peuple? Et à cette question, la réponse est non, bien sûr. La présence de prophètes en Ésaïe et même de manière générale dans l'Ancien Testament montre que Dieu veut toujours communiquer avec son peuple. Il persiste à communiquer avec lui, même si le peuple n'a pas la bonne attitude à son égard. Et Ésaïe ici fut envoyé pour tenter de rétablir une situation problématique. Alors les premiers chapitres d'Ésaïe, jusqu'au chapitre 9 ici, nous décrivent un peu la situation. Et pour bien faire, il aurait fallu tout lire. Alors je vous ai lu quelques versets du chapitre 8 pour vous épargner ça. Vous pouvez le faire à la maison, ça peut être vraiment utile. Mais si, c'est juste pour nous montrer l'attitude du peuple envers Dieu. On voit un peuple orgueilleux qui agit purement et simplement comme s'il ne connaissait pas Dieu, comme des incroyants. On nous dit dans certains passages qu'ils ont des pratiques venant de l'Orient, c'est-à-dire qu'ils ont des pratiques des autres peuples, ce que Dieu ne voulait pas. Ils ont des pratiques de la magie. Mais je n'ai pas besoin d'expliquer, on comprend bien que ce n'est pas forcément quelque chose qui plaît à Dieu, même pas du tout. On voit un pays rempli de faux dieux. En gros, tout ce que Dieu déteste. On voit dans certains endroits qu'ils ont une apparence d'une certaine piété. Ils ont une pratique religieuse, ils font des sacrifices, ils font des prières. Mais Dieu a en horreur leurs sacrifices et se détourne de leurs prières. Là, on pourrait se dire, mais c'est étonnant, n'est-ce pas? Pourquoi en est-il ainsi? Peut-être comme si Dieu voulait leur dire, mais il y a quelque chose d'autre à faire avant cela. Et à plusieurs reprises, Dieu les avertit de croire en lui, car lui seul est en contrôle de toutes choses. Lui seul est le Dieu souverain qui a chaque événement dans ses mains. Et il les exhorte, notamment au chapitre 2, à marcher à sa lumière, marcher à ma lumière, afin de ne pas être dans les ténèbres. Le verset 20 ici de notre lecture nous dit « Il faut revenir à la loi et au témoignage. Sinon, ne parle pas de cette manière. Il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Revenez à ce que je vous ai dit. » C'est un peu comme si Dieu les encourageait. « Venez à ce que je vous ai promis. » Et ne vous éloignez pas de ça. Et le refrain qu'on trouve de manière assez fréquente dans Ésaïe jusqu'ici, Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Et Isaïe prend même un exemple assez ironique au verset 19 en disant que n'importe quel peuple, quand on regarde de manière générale, quand il a un souci, un problème, se tournera vers ses dieux. Il consultera ses devins ou autres. Et donc, c'est logique de se tourner vers son Dieu. Et le peuple d'Israël ici, Juda, qui connaît Dieu d'une certaine manière, devrait se tourner vers lui, mais ce n'est pas le cas. Pour éviter les problèmes, il fallait simplement faire confiance à Dieu pour demeurer en sécurité, croire que lui était en contrôle. Mais le peuple continue de compter sur sa propre sagesse. Il néglige Dieu totalement, et on le voit dans ses pratiques, dans tout ce qu'il fait. Il ne place pas sa foi en Dieu. Et tout a démarré lorsque le roi Akaz, un peu plus tôt, a eu peur. Il était dans l'angoisse. Et pourquoi cela ? Bien parce que deux rois se sont liés ensemble pour venir lui faire la guerre, pour le détruire. Alors à ce stade, on pourrait comprendre, oui, moi aussi je serais dans l'angoisse si des personnes s'allieraient contre moi pour m'attaquer. Mais Dieu le soutient, il lui envoie le prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe le rassure. On voit ça au chapitre 7 notamment, où il dit « Sois tranquille, n'aie pas peur, que ton cœur ne se trouble pas devant ces deux bouts de bois fumants. » Autrement dit, ces deux rois qui cherchaient à attaquer le roi de Juda n'étaient rien pour Dieu. Et qui ce matin ne voudrait pas entendre Dieu lui dire « Sois tranquille, n'aie pas peur dans les problèmes de la vie. » Un peu plus loin, il dit même « Cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. » Il avait peur d'être attaqué, mais Dieu lui affirme « Cela ne se produira pas. » Mais Akaz continue d'essayer de tenter de trouver une solution par lui-même, au lieu de se tourner vers le seul qui a la solution. Et il livre en fait le peuple à une situation vraiment terrible. Le peuple est dans les ténèbres, perdu, aveugle, incapable de prendre la bonne décision. Et le verset 18 nous parle de deux enfants qui sont à présent avec Ésaïe, qui sont en fait nommés d'une certaine manière et qui servent en fait de panneaux indicateurs, comme pour dire « Ésaïe parle ». Et les enfants qui sont présents avec lui sont là en fait pour dire « Je sais ce qui va se passer ». Un enfant a un certain nom pour dire « Voilà, les deux rois qui t'attaquent ne seront rien », mais un autre enfant est utilisé pour dire « Si tu continues à te rebeller contre moi, à ne pas m'écouter, tu auras aussi des problèmes. » Un peu comme un feu rouge, si on veut, dans la route. Si on continue malgré que le feu est rouge, on risque d'avoir des problèmes. Et cela montre que Dieu sait exactement ce qui va se passer. Qui n'est pas pris au dépourvu ou qui fait, on pourrait dire peut-être une promesse en l'air. Non, c'est établi, c'est là. Bien avant que cette situation arrive, deux enfants sont nés qui permettaient aux personnes qui les voyaient de repenser à ce que Dieu avait dit. Mais alors comment ça se passe, concrètement ? C'est un peu comme si, aujourd'hui, on avait vu qu'il y avait un virus destructeur qui était en train de ravager la Belgique, toute forme de vie, aussi bien les animaux que les êtres humains. Tout ce qui vit est décimé, chaque jour, toujours plus de morts, quelque chose de vraiment terrible. À ce stade, on a le gouvernement qui se rassemble, qui essaye de trouver une solution. Alors, convoque les plus grands chercheurs, les plus grands docteurs. On va trouver une solution, on ne peut pas laisser ce virus continuer à se propager de la sorte, c'est vraiment terrible. Alors, on s'imagine, le conseil, ils discutent ensemble et tout d'un coup, un des médecins réputés lève la main et dit « Écoutez, ce virus qui est en train de décimer tout votre pays, je connais, je l'ai étudié. Et en fait, j'ai élaboré un vaccin. Et si vous voulez, je peux vous donner la formule et vous pouvez être sauvés, guérir ceux qui sont contaminés, éradiquer ce virus. » Et à ce stade, c'est un peu comme si le gouvernement, les représentants du peuple disaient « Merci, merci pour ta solution, mais on va quand même essayer de trouver une solution ensemble. On va quand même essayer... entre nous, de pouvoir trouver quelque chose qui soit adéquat face à ce problème. » Et là, c'est quelque chose d'assez ridicule. C'est une réaction qu'on pourrait qualifier vraiment de catastrophique. Au final, on peut facilement s'imaginer la fin d'un tel scénario. Qu'est-ce qui aurait pu rendre le gouvernement aussi aveugle à une solution aussi évidente et efficace ? Veulent-ils simplement la mort des gens du pays ? Et dans la situation du peuple de Juda, c'est un peu ce qui se passe. Ils ont la solution pour vivre. Et c'est tout aussi facile et évident, dans un sens. La solution pour vivre, c'est de faire confiance à Dieu. De croire que lui avait la solution pour leur salut. Le texte nous dit que le peuple se trouve dans les ténèbres, et visiblement loin de Dieu. On voit ça au verset 21 et 22 qui décrit cela d'une manière assez dure, d'une manière assez difficile. Des ténèbres profondes, desquelles il est purement et simplement impossible de se sortir par soi-même. Et tout compte fait, quand on analyse la situation, on voit que plus ils essayent de se sortir des problèmes par eux-mêmes, plus ils vont s'enfoncer. Et notamment, ils vont utiliser la Syrie, dont on a un peu parlé au début, pour pouvoir combattre les deux rois qui venaient. Mais la Syrie va ensuite se retourner contre eux et les renverser totalement. Et le texte un peu plus loin nous dit que Dieu, en fait, a utilisé la Syrie comme instrument de jugement contre Juda, pour punir Juda de sa rébellion, du fait qu'ils n'ont pas voulu de Dieu. Et l'invasion assyrienne, donc c'est la superpuissance de l'époque, représente le jugement de Dieu sur Juda. Et à ce stade, c'est intéressant de constater, même encore aujourd'hui, que les puissances, aussi grandes peuvent-elles être, sont simplement dans la main de Dieu. Un passage dans Ésaïe nous dit que Dieu utilise la Syrie comme un bâton, un gourdin pour frapper, pour punir. C'est rien de plus que cela. C'est lui qui utilise ce peuple. Donc le peuple est plongé dans les ténèbres. Et ces ténèbres représentent le jugement de Dieu à cause du fait qu'ils ont rejeté Dieu. Et une situation terrible survient sur ce peuple. Juda est envahi. À cela s'ajoute la déportation de certaines villes. Cela mène vraiment à des périodes difficiles. C'est un peu comme si on imaginait aujourd'hui que toute la puissance militaire des États-Unis se retournait sur la Belgique pour détruire tout le monde. Et de comprendre que ça, en fait, c'est parfaitement mérité, parfaitement juste. On se dit, waouh, c'est quand même quelque chose de difficile, une situation vraiment dure. Et tous ces événements malheureux nous amènent à considérer quelque chose en particulier. Le peuple doit faire face, en fait, à un problème encore plus grand que la Syrie, que ce problème militaire. L'état de son cœur. L'état de son cœur qui se traduit par une rébellion envers Dieu. Le péché de son cœur qui est en fait l'ennemi le plus grand qu'il a. Qui le pousse à choisir des solutions humaines plutôt qu'à choisir les solutions de Dieu, des solutions fiables pour son salut. Le fait de rejeter Dieu, de vivre d'une manière contraire à sa volonté, de se croire plus intelligent que lui, montre une seule chose. Ils n'ont jamais connu Dieu. Ils n'ont jamais eu de relation avec Dieu. Ils ne le connaissent pas du tout. Ils sont donc perdus dans les ténèbres, subissant sa colère et son jugement. Quelque chose de vraiment, vraiment terrible. Et voici un tableau bien sombre, n'est-ce pas, ce matin, de ces hommes à cette époque. Le plus difficile, peut-être maintenant, ce matin, pour nous à entendre, c'est de s'imaginer que ce problème de cœur, en clair, s'éloigner de Dieu, est en fait notre problème à tous. La Bible est claire là-dessus. L'homme ne cherche pas Dieu, l'homme ne veut pas de Dieu. Et il suffit de voir simplement comment Dieu est traité de nos jours. Dans le meilleur des cas, il est traité au dernier plan. On se retourne toujours vers les solutions humaines, on croit en l'homme, mais Dieu est loin derrière. Peut-être parfois, dans un élan d'égoïsme, on va prier à Dieu ou à un autre, mais en espérant peut-être qu'une réponse revienne. Mais ça ne marche pas comme ça. Et même si aujourd'hui on n'est pas envahi par des armées destructrices, le problème reste le même. Si nous rejetons Dieu, nous nous retrouvons également dans les ténèbres, ne sachant quelle direction prendre. On est livré à nos passions destructrices, on n'est jamais satisfait dans ce qu'on fait, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, dans nos loisirs, dans nos relations avec les gens. Jamais pleinement dans la joie. On a une crainte constante de l'avenir. On ne sait pas de quoi est fait demain, on n'a aucune espérance. On a peur de la mort. Et ça, dans un sens, c'est normal, parce que si on reste contre Dieu, si on est rebelle à Dieu, la Bible nous dit qu'on ira vers une terrible fin, loin de la présence de Dieu, pour l'éternité. Et ça, c'est vraiment terrible. Certains essaient de se cacher derrière l'apparence religieuse, mais une attitude de fausse piété ne marche pas. Ça ne sert à rien d'essayer de se rendre Dieu favorable en cochant quelques cases, en essayant d'obtenir un ticket pour le salut. Non, le peuple d'Israël a essayé de faire ça à son époque. Mais Dieu regarde au cœur, Dieu regarde les intentions de nos cœurs. Si je reprends en fait mon illustration précédente avec le virus qui est en train de décimer la Belgique, eh bien, ce virus est en fait en train de décimer le monde entier. Et il n'y a plus aucune solution pour nous. On est perdu. Si, il y en a une. Peut-être de s'échapper de cette planète, d'aller vers une planète qui n'est pas contaminée. Et les personnes qui essayent par eux-mêmes, par leurs œuvres, de se rendre Dieu favorable. C'est un peu comme si je vous disais, vous n'avez qu'à construire un vaisseau spatial et aller vers cette planète. On verra si vous arriverez à décoller le sol. Situation désespérée. Désespérée. Et pourtant, la joie proviendra de Dieu seul. Verset 2, regardez avec moi, tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. Mais d'où provient cette joie? Je viens de passer la moitié de mon temps ici à parler d'une situation vraiment désespérée, vraiment noire. Et ici, la joie est de mise. Il y a un renversement de situation qui est là. Eh bien, le verset 1 nous dit, chapitre 9, verset 1, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. » Jusqu'ici, nous avons suivi les hommes. On a vu qu'aucune solution n'est possible pour nous sortir des ténèbres. Et ici, le verset 3 et 4 nous décrit que le jugement de Dieu semble avoir pris fin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Et dans le verset 4, on voit que tous les maux dus à la bataille, toutes les souffrances sont maintenant réduits en cendres. Balayer. Mettons-nous maintenant à l'écoute de Dieu, de la solution qu'il nous propose. Une solution comme au jour de Madian. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jour de Madian, ça fait référence à un autre épisode en Juges 7 avec Gédéon. Gédéon qui devait partir avec une toute petite armée pour vaincre les Madianites. Et cette histoire avait pour but de nous montrer que Dieu seul a gagné la bataille et a offert la victoire à Gédéon. Cette histoire avait pour but de nous montrer qu'il ne s'agit pas d'une intervention humaine ici, mais de Dieu seul qui agit pour sauver. Voici donc la solution de Dieu au verset 5. Regardez avec moi. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. Et à ce stade, ce serait intéressant de voir, si chacun pouvait avoir la parole, la première pensée que vous avez eue lorsque j'ai dit « un enfant nous est né ». Un enfant nous est né. Moi, personnellement, quand j'ai lu ce texte, je voyais peut-être quelque chose de petit, de fragile, peut-être sans force, luttant pour survivre. Je me rappelle de ça, d'ailleurs, quand mon fils Eden est né. Il était tellement petit, tellement chétif. J'avais même peur de lui changer ses couches, j'avais peur de lui faire mal, tellement il était petit. Et là, on pourrait se dire, mais y a pas un problème, là. On vient de passer notre temps à décrire un problème vraiment colossal, et un enfant nous est né. Face à ce genre de problème, on aurait peut-être plutôt tendance à attendre un chef de guerre, un militaire expérimenté, ou un homme politique influent, un meneur d'hommes extraordinaire. Mais les apparences peuvent être trompeuses, car face à un tel problème, face au problème du péché dans nos cœurs, la solution à fournir doit être plus qu'efficace afin de nous assurer un salut définitif. Il ne s'agit pas ici d'obtenir la victoire sur des ennemis et puis d'autres ennemis viennent et on est de nouveau dans les problèmes. Non, ce que Dieu nous propose ici, ce n'est pas un salut temporaire, mais un salut définitif. Rappelons-nous que Dieu s'attaque au réel problème, qui n'est pas du tout l'oppression de l'ennemi, mais la disposition du cœur de l'homme qui le plonge dans les ténèbres sous le jugement de Dieu. Et pour un problème de cette envergure, il faut une solution plus qu'efficace. C'est pourquoi, dans ce texte, Dieu a pris soin de nous révéler plus en détail qui est cet enfant, ce qu'il va accomplir. 4 noms, ici, nous sont donnés, pour mieux cerner la nature de la solution à venir. On l'appellera merveilleux conseiller. Merveilleux conseiller, c'est-à-dire le prophète par excellence. Ces paroles sont les paroles de Dieu lui-même, celui qui a l'infaillibilité de la toute science, qui connaît toute chose, parce qu'il a l'esprit de Dieu sans mesure. Wow, merveilleux conseiller. Le terme merveilleux ici fait une connotation aux grandes choses que Dieu a faites dans le passé. Libérer son peuple d'Israël, le conduire à travers, d'Égypte plutôt, le conduire dans le désert. Merveilleux conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Et le terme de puissant ici est utilisé généralement pour parler d'un héros de guerre, d'un héros qui se distingue du commun des mortels par les grandes choses qu'il a accomplies. On se dit, waouh, il semble être plus qu'un homme dans ce qu'il a accompli. Et on voit que ce n'est pas n'importe quel héros, mais Dieu, Dieu puissant. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que le fait d'associer ces deux noms fait référence à une seule et même personne. Il s'agit de notre Dieu, en fait, pas de n'importe quel Dieu, de Yahweh lui-même, le seul vrai Dieu, le créateur de l'univers. Père éternel, Père éternel. Et ce troisième nom porte sur la durée de sa seigneurie, une seigneurie qui dure éternellement. Un Père protecteur qui prend soin, mais ce Père qui agira de manière éternelle et non pas de temps en temps. Prince de la paix, prince de la paix. Et ici, il s'agit bien plus de l'absence de conflit armé. Le mot paix ici indique que son règne sera caractérisé par une harmonie universelle, l'épanouissement complet de tous ceux qui lui sont soumis, de tous ses sujets, délivrés pour toujours de la crainte. Et attention, de quelle crainte est-ce qu'on est en train de parler ici ? La crainte du jugement de Dieu, qui est la pire chose que nous avons au-dessus de nos têtes. Quatre titres, présentant chacun un aspect humain et un aspect divin. Et ça nous montre quelque chose d'intéressant, c'est que pour répondre aux problèmes de nos cœurs, cela prend plus qu'un homme. En fait, cela prend Dieu lui-même pour répondre aux problèmes de notre cœur. Et en cela, il est bon, je pense ici, de faire une petite pause et de s'imaginer à l'amour de Dieu à notre égard. Le grand Dieu de l'univers, celui qui a tout créé, l'univers, qui nous a tous créés individuellement, à un moment donné, quitter son trône de gloire pour venir sur cette terre, pour se faire comme un homme. Comme un homme. Et le texte nous dit ici, comme un enfant. Comme un enfant fragile. Et si je vais encore un peu plus loin, comme un embryon, comme une cellule, le grand Dieu de l'univers, le Tout-Puissant, a accepté de se faire aussi faible et fragile que ça, afin de venir au secours, à notre secours, afin de nous sauver de notre rébellion à son égard, alors que nous ne voulions simplement pas de lui. Mais attention, dans un même temps, il ne faut pas limiter, comme certains ont tendance à le faire, tout ce que nous voyons aussi, cet enfant, à l'aspect d'un petit bébé, d'une petite solution, peut-être, qui pourrait résonner plus accessible. Oh, j'ai quelques problèmes, je sors mon joker, le petit enfant, Jésus, ou autre. Non. Il ne s'agit pas non plus d'un génie, d'une lampe qu'on frotte pour avoir à certains moments ce qu'on souhaite. Non, il ne s'agit pas de cela ici. Il s'agit du Seigneur Dieu, du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, à qui nous devons tout. Prenons garde, donc, si parfois cela nous arrive d'être dirigés dans des élans superstitieux, attention à qui nous avons affaire ici. Il s'agit du Dieu Tout-Puissant, et non pas du petit enfant dans la crèche. Bien sûr, il est passé par là, mais il n'est pas que ça, et ce texte nous le montre largement. Il s'agit de Dieu lui-même. Et il est bon également de constater que Dieu n'a jamais été pris au dépourvu. On se rappelle les deux fils d'Ésaïe, qui servaient comme panneaux indicateurs de la situation qui allait arriver. Et bien ici, depuis le péché de nos premiers parents, en Genèse 3, on se rappelle la chute, Dieu a fait toute une série de promesses à travers l'Ancien Testament et directement après la chute, en disant « Elle écrasera la tête, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent ». Et on retrouve plusieurs promesses qui ont été faites parce que Dieu avait promis qu'une solution au problème du péché nous serait donnée. Et alors, quand on regarde ça, on cherche dans l'Ancien Testament, mais qui sera cette personne ? Qui sera celui qui viendra nous libérer du péché de nos cœurs ? Et une de ces promesses se retrouve ici au verset 6, chapitre 9, verset 6, et qui nous parle d'un descendant de David, qui sera en fait le Messie, qui viendra tout rétablir, prendre la royauté pour toujours, et qui instaurera le droit et la justice pour toujours. Ésaïe précise ici dans notre passage, particulièrement au chapitre 9, verset 5 et suivant, que cet enfant à naître possédera toutes les caractéristiques surhumaines pour répondre à cette promesse qui avait été faite auparavant à David. Donc ça va nous pousser nos regards à chercher, mais qui est cet enfant ? Quand va-t-il apparaître ? Et on voit qu'à l'époque d'Ésaïe, il n'y a aucun enfant qui est né, qui possédait ces caractéristiques-là. On sait qu'aucune autre personne ne peut remplir ses fonctions. Et ce qui est intéressant maintenant, pour nous qui avons toute la Bible, c'est de regarder un peu plus loin dans les évangiles, et notamment en Luc, chapitre 1, verset 30, si vous voulez regarder avec moi. Au début de l'évangile de Luc, on voit l'ange Gabriel qui apparaît pour annoncer une nouvelle réjouissante. La joie, se rappelle de ça, la joie. Il annonce une nouvelle réjouissante à Marie. Au verset 30, l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Voici donc comment commence l'évangile de Luc, qui nous présente la naissance de Jésus. Dans une étable, on l'a chanté suffisamment ce matin, où on se rappelle de ce moment, et qui nous montre l'accomplissement d'une de ses promesses, notamment ici, dans Ésaïe. Un évangile qui nous décrit comment notre Seigneur est né, ce qu'il va accomplir, et ce qu'il va faire à la fin en mourant sur la croix. On voit durant son ministère terrestre que Christ a montré qu'il était plus qu'un homme. Par les miracles qu'il a fait, par les choses qu'il disait, par son enseignement, on voyait qu'il y avait quelque chose de différent en lui. On voit aussi qu'il n'est pas venu en tant que conquérant, on en a parlé, mais comme un serviteur. Un serviteur, et cela pour répondre au plus grand problème de l'homme, le péché de son cœur. On voit aussi que pour cela, il a dû donner sa vie en rançon pour nous. Car rappelons-nous, nous étions sous le jugement de Dieu. Et ce jugement implique pas mal de choses. Ça ne veut pas dire que parce que Dieu nous a donné la solution en Christ, il peut simplement effacer le tableau. Non, là, il n'y aurait aucune justice. Il fallait payer pour cela, pour cette offense. Et quelqu'un a payé pour nous. Et Christ a payé pour nous à la fin de son ministère en mourant à la croix. La prophétie vient donc trouver un accomplissement ici, dans la naissance de l'enfant Jésus. La lumière a donc resplendi, nous redonne la joie, nous libère de notre péché d'incrédulité, de rébellion à l'égard de Dieu. Maintenant, dans l'évangile de Jean, on voit cela aussi, au premier chapitre, verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Et ce matin, nous connaissons tous plus ou moins l'œuvre de Christ, peut-être pas dans les détails complètement, mais aujourd'hui, nous savons maintenant que Christ est la seule solution qui nous a été donnée pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions expérimenter cette joie. Et au verset 11, Jean nous dit, « Elle est venue chez les siens, donc cette lumière, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Cette lumière fut rejetée, mais donne la vie à ceux qui croient en elle. » Et on voit donc maintenant d'où provient une telle joie. Le plus grand problème de l'homme, nous étions sous son jugement, destinés à mourir. Et maintenant, nous ne voyons plus de jugement. Nous voyons que nous sommes réconciliés avec Dieu, plus de colère. Nous ne sommes plus enfants des ténèbres, mais nous devenons enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Et quelle est notre réponse ce matin face à cela, quand nous entendons cela? Quelle est notre réponse face à Christ? Est-ce qu'on va préférer continuer à considérer les prouesses humaines, ou même peut-être essayer de se secourir par soi-même? Ou est-ce qu'on va simplement baisser les armes et aller vers Dieu, vers la solution que lui seul nous donne? Peut-être que lorsqu'on va comprendre cela, on aura la repentance, on exprimera de la repentance face à l'attitude qu'on avait. On était rebelles à Dieu, mais comment est-ce qu'on a pu faire cela face à un grand Dieu qui nous aime à ce point? Et si nous avons placé notre foi en Christ, dans ce moyen que Dieu nous a donné, nous pouvons alors avoir la ferme assurance que ses promesses, comme nous venons d'en lire une ici, en Jean 12, Jean chapitre 1, verset 12, cela est vrai pour nous. Et ça nous donne une espérance, une joie que le monde ne connaît pas. Car le monde demeure dans les ténèbres, le monde demeure loin de Dieu. Et à ça, peut-être certains vont me dire, « Oui, mais moi, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, j'ai accepté Christ, mais pourtant la vie reste difficile. J'ai toujours des difficultés. » Et à cela, ça c'est un fait indéniable. Lorsqu'on accepte le salut en Christ, on continue de vivre dans ce monde avec ses difficultés. Alors à cela, il est important de considérer la double portée de la prophétie d'Ésaïe. Christ est bienvenu sur terre. Il a bien rendu le salut possible à tous ceux qui croient en lui. Il nous a bien sortis des ténèbres. La guerre est bien gagnée. Nos fautes sont pardonnées. Le péché est détruit. Nous ne sommes plus sous le jugement de Dieu. Mais nous restons néanmoins dans l'attente d'une étape non négligeable qui doit encore se produire. Christ est monté, il a dit « Je reviendrai ». Christ reviendra pour conduire avec lui tous ceux qui lui appartiennent à l'endroit où il nous a préparé, une place où tout sera parfait, où nous serons pour toujours. Avec lui, un lieu où il n'y aura plus de larmes, plus de tristesse, où la justice et l'équité seront le quotidien. Demeurons donc dans la joie de notre salut, car notre Dieu est grand et il est fidèle à ses promesses. Gardons les yeux fixés sur le Christ dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Face à n'importe quelle crainte, n'importe quelle difficulté, peut-être une difficulté au travail, peut-être qu'on a de la moquerie lorsque l'on parle de Dieu, lorsqu'on affirme être chrétien, peut-être notre santé est défaillante, peut-être qu'il y a plein de problèmes qui viennent alourdir notre marche. Mais rappelons-nous que cet homme mort à la croix, qui est Dieu, c'est en fait tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède. Tout ce qu'on a, c'est le Christ, on n'a rien d'autre dans ce monde. Réjouissons-nous de l'évangile, de notre salut. Ne rendons pas ça banal, car nous ne sommes plus sous le jugement de Dieu, qui est en fait la pire chose qui pourrait nous arriver. Souvent, on perd de vue cela, sous le jugement de Dieu. Afin que même s'il nous arrive d'être tristes face à différentes situations de la vie, nous ne soyons pas accablés à l'extrême, et que nous puissions rester surtout motivés par ce que Christ a fait pour nous. En fait, l'essentiel, le problème principal de l'homme a été résolu à la croix grâce à l'œuvre du Christ. Et dans un sens, tout le reste n'est que secondaire, même si cela est dur. L'essentiel est accompli. Rappelons-nous les promesses de Dieu. Que si nous avons placé notre foi en lui, nous ne sommes plus enfants des ténèbres, mais enfants de lumière. Rappelons-nous notre identité en Christ. Et peut-être que notre manière de réagir face à certaines difficultés de la vie, certains problèmes, sera en phase avec ce que nous dit la parole. Ah oui, je me rappelle, je suis enfant de Dieu. Ça, c'est ma joie. C'est là que je trouve vraiment toute ma joie. Et non pas dans les difficultés de la vie qui sont là, qui sont parfois intenses. Et ce matin, peut-être que vous ne l'avez pas encore accepté. Certains d'entre vous l'ont peut-être même rejeté pendant un temps. Et je vous invite à profiter de cette opportunité ce matin de vous tourner vers lui. Si vous voulez expérimenter cette joie indescriptible, l'espérance que personne ne peut connaître sans Dieu. En tant que chrétien aussi, que nous puissions prier pour que l'accomplissement de la promesse vienne à son comble. Que nous puissions l'attendre avec ardeur et persévérance. Parfois, quand on pense au retour de Christ, on pense au jugement dernier. Ça peut paraître terrifiant, le jugement dernier. Mais rappelons-nous, si nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes plus sous le jugement. Et donc, ce jour, quand il arrivera, sera un jour de fête pour nous. Ce ne sera plus un juge qu'on aura en face de nous, mais un Père qui sera là pour nous. Et enfin, nous verrons notre Seigneur face à face. Et je terminerai ce matin avec la dernière phrase de notre passage, Ésaïe chapitre 9. Verset 6, qui est comme une signature que Dieu met sur cela, une promesse qu'il donne, mais en plus comme s'il contresignait cela en disant « C'est certain, cela va se passer, cela nous affirme que ce que Dieu dit, il l'accomplira. » Il nous dit « Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. » Ce n'est pas « peut-être, on verra, ou on n'est pas sûr, mais il le fera. Il le fera. » Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, nous venons devant toi pour te remercier pour cette joie, pour te remercier de cette joie de te connaître, Seigneur. Merci parce que tu as tout accompli pour nous à travers l'œuvre de Christ. Merci parce que tu es venu sur terre pour nous sauver de nos péchés, de la colère qui pesait sur nous, du fait que nous t'avions rejeté, Seigneur. Merci parce que tu nous as ouvert les yeux et permis de t'appartenir. Que nous puissions, Seigneur, vraiment être dans la joie de notre salut à chaque instant. Même s'il y a des difficultés, Seigneur, rappelle-nous l'Évangile. Aide-nous, Seigneur, à passer du temps dans ta parole pour voir ces perles merveilleuses que tu nous donnes. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons une nouvelle identité en Christ. Plus de jugement, Seigneur. Merci pour cela. Merci pour le Christ, pour ta grâce envers nous. Amen.